now.
Attention, vous êtes sur écoute. Attention, vous êtes sur écoute.
Bonsoir à tous, vous êtes bien sur écoute et nous sommes le mardi 23 décembre, plus qu'un jour avant Noël, Nicolas.
Ah, je suis tout excité. Et aujourd'hui, comme hier, on vous propose le meilleur de sur écoute depuis le début de l'année.
Alors, c'était un peu notre histoire au long cours. L'homme qui voulait courir plus vite que le métro. Alors, le premier sujet avait été proposé par Guillaume, notre expert en métro, hein, vous l'avez découvert. C'était le 5 novembre dernier et on vous laisse écouter ça tout de suite.
Attention, vous êtes sur écoute.
Moi, je voulais vous poser une question. J'imagine, enfin, c'est pas vraiment une question, mais vous avez tous couru un jour derrière le métro d'une manière effrénée.
Ouais, et puis
plus derrière
partir.
Le bus, parce que derrière le métro,
oui, parce que par Rennes, c'est difficile quand même.
Moi, j'ai couru devant les contrôleurs.
On peut se prendre une vitre dans la gueule.
C'est ça. Courir après le métro. En plus, c'est ce que j'avais écrit. Donc. La plupart d'entre vous l'ont déjà fait, vous en conviendrez, c'est pas vraiment très intéressant. Ça décoiffe, ça essouffle. Bref, c'est pas l'éclate. Pourtant, depuis quelques semaines, les métros du monde deviennent les terrains de jeu des plus téméraires athlètes. Le phénomène Rise the Tube, né en Grande-Bretagne et réalisé à travers le monde, arrive à Rennes. Sébastien Philippe, 36 ans, est sportif amateur et l'homme de la situation, pratiquant depuis l'âge de 9 ans la course à pied. C'est l'endurance et le souffle bien affûté qu'il effectue, entre autres raids, randonnées ou encore marches de nuit de 80 km. Toujours à la recherche de défis et de dépassements de soi, il va le relever un challenge, mais vous allez le voir, pas si simple que cela.
Alors le défi que je vais tenter de réaliser, je vais partir de Villejean en validant mon ticket, je vais sortir de Charles de Gaulle. Je vais gravir l'escalator et les 21 marches à pied. Après, je vais enchaîner le sprint rue de l'Alma pendant que le métro passe par gare. Et après, moi, je vais essayer de le retrouver Jacques Cartier.
Combien de temps t'as pour réaliser ton défi ?
À peu près un tout petit peu moins de 3 minutes. Un tout petit peu moins de 3 minutes, sachant que globalement, pour sortir de la station Charles de Gaulle, j'ai 20 secondes. Pour descendre les marches, je l'ai fait, j'ai fait un temps à 19 secondes, donc ça fait environ 40 secondes entre les deux. Il me reste 2 minutes 20. Et 2 minutes 20 pour faire 900 mètres, ça fait qu'il faut courir entre 20 et 23 km.
Un défi corsé, vous l'avez entendu, en moins de 3 minutes. Alors pour y parvenir pendant 6 semaines, Sébastien Philippe s'entraîne de manière intensive sur un format fait sur mesure pour le défi, par un programme draconien de repérage technique et de courses variées en situation réelle, tout en reposant toujours les limites et les prouesses physiques.
Il n'y a pas de parcours d'entraînement bien défini, hein, parce qu'il n'y a pas de fédération française Rise the Tube avec un entraînement tous les jours on fait ça ou tous les deux jours on fait des sprints et tout. Non. Donc j'ai basé mes entraînements beaucoup sur des sprints en 400 et 800 mètres, sur un profil en montée. Le profil, c'est la rue de l'Alma, globalement, en sortant de Charles de Gaulle, et ça monte sur à peu près 600 mètres et après ça redescend sur 300. Donc s'entraîner sur piste, c'est pas valable parce que c'est pas des vraies conditions. Donc je me suis entraîné sur des sprints avenue de la Hublée, assez sombre. Et là, c'est le profil un petit peu pareil que la rue de l'Alma. Et je dépasse les vélos, ouais. Les vélos, je pense que bah, du coup, ils sont un petit peu plus lourds. Sur les montées, ils ont un peu plus de mal. Et c'est vrai que je les dépasse en courant. Et ça me donne une motivation parce que j'ai quelqu'un devant moi, quelqu'un à dépasser, donc c'est bien. Et puis sinon, je me suis entraîné dans le métro aussi. Puisque j'ai fait un peu le circuit, hein. Donc je suis sorti de Charles de Gaulle, j'ai pris les escalators en mode sprint, et après j'ai enchaîné des 100, des 200, des 400 et des 600 mètres, voire même des 800 mètres derrière, pour entraîner le cardiaque et le souffle.
Le défi étant sa teneur inédite, puisque les précédents Rise the Tube réalisés entre deux stations s'effectuaient sur des distances de sprint aux alentours de 400 mètres. Ici, dans une avenue de l'Alma en dénivelé, Sébastien doit, en maîtrisant la circulation, sortir de la station Charles de Gaulle sans bousculade et devra enchaîner 900 mètres de course à une allure constante avoisinant les 20 à 23 km/h. Vitesse élevée, alors, mais qui selon ses calculs est la seule envisageable pour être en mesure d'égaler le métro rennais dont la vitesse moyenne culmine à 35 km/h, mais qui au même moment s'arrête à la station gare, puis ralentit à l'approche d'un virage. Après ses 900 mètres de sprint effréné, Sébastien va s'enfoncer dans la station Jacques Cartier et dévaler les 91 marches qui le séparent de la rame d'arrivée, des marches qui l'ont beaucoup inspiré.
Et je me suis préparé aussi à descendre les marches. Les 91 marches à descendre, alors là, il faut éviter de se blesser, il faut, s'il pleut, faut pas glisser, faut pas tomber, il faut les descendre le plus vite possible. Alors j'ai étudié des solutions comme voler dans l'escalier, mais bon, ça c'est pas faisable. Descendre sur la rambarde, c'est pas faisable non plus parce qu'elle est pas assez large, donc on tient pas dessus. Donc là, il n'y a pas le choix, faut dévaler les escaliers et trouver le chemin le plus court, quoi.
La course aura lieu le mardi 11 novembre et l'heure seront communiquées dans les jours à venir sur la page Facebook dédiée au défi « Courir plus vite que le métro de Rennes ». Rappelons que cette course est une initiative personnelle qui n'associe aucun partenaire ou sponsor. Elle est dédiée à une belle cause, l'autisme, à laquelle Sébastien est très sensible.
Ça fait à peu près 3 ans là, que je pense à une cause, c'est l'autisme et les troubles envahissants du développement. Et tous ces défis-là, bah, je les fais aussi pour soutenir ces gens qui luttent contre ces handicaps-là et qui aident les personnes à s'en sortir, à s'intégrer. Je pense notamment aux enfants, pour les intégrer dans les écoles, les aider à avoir un parcours scolaire normal. Et donc moi, le défi, courir plus vite que le métro de Rennes, bah, je le dédie justement à cette cause-là, l'autisme et les troubles envahissants du développement.
Alors même si les encouragements stimuleront ces efforts, mentionnons toutefois pour les curieux du jour qu'une vidéo sera publiée prochainement sur la page Facebook de l'événement. Elle étalera quelques consignes de sécurité, car si vous ne l'avez pas encore compris, les bains de foule sont fortement prohibés pour la réalisation de ce défi. Vous pourrez suivre tout le déroulé sur le net. Le défi est filmé par des caméras portatives et des proches, notamment à vélo. Des images qui donneront lieu à un montage vidéo qui sera réalisé au terme de l'effort. Je vous donnerai donc de ces nouvelles prochainement. Du reste, souhaitons-lui bonne chance et espérons que ce jour-là, le métro ne va pas oublier sa ponctualité à la maison. Voilà.
Merci beaucoup, Guillaume.
Ouais, j'avais une question. Mettons si ce monsieur rencontre dans les escaliers une dame qui promène son teckel et qu'il trébuche dessus. Qu'est-ce qui se passe? Il lui adresse un procès?
Bah, je pense qu'au-delà du fait qu'il sera assez rageant, il calcule en fait son parcours sur le fait que il veut être le premier à l'ouverture du métro et qu'ensuite il va s'élancer dans son défi là. Il va essayer d'éviter le maximum de personnes. Après, il sera à la merci forcément des personnes présentes. Il choisit cette date du 11 novembre parce que c'est un jour férié, donc en théorie il y a moins de personnes. Donc après c'est que des calculs. C'est que sur l'hypothèse, il a pas privatisé les 2 stations de métro. Il va être à la merci des événements extérieurs. Mais bon, normalement ça devrait. Il s'y prépare depuis un moment, donc il a vraiment. Il veut parier à toute éventualité.
Et tu peux nous rappeler la période pendant laquelle ça va se passer?
Alors ça se passera le 11 novembre. Donc
pardon. Quand... Oui. J'étais absorbé par ton discours.
Voilà, merci.
Mais qu'est-ce qui se passe si le métro retombe en panne comme hier?
Patatras,
plus de défi.
Il attendra le métro à la station Jacques.
Il aura battu le record.
Non, moi je lui souhaite de réussir parce que forcément, si le concurrent qui est le métro n'est pas au rendez-vous, il n'y a pas de défi, donc je lui souhaite.
Ah ouais.
Forcément, ça marche moins bien. Oui.
Voilà, donc je lui souhaite de réussir son truc.
J'ai juste une petite question. Ouais. Est-ce qu'il a prévu de le faire après contre le tunnelier Hélène qui va creuser la ligne B du métro?
Alors, ce sera certainement un de mes prochains sujets qui traitera du métro.
Tu m'étonnes.
Nous verrons ça. Là,
faudra sortir une compilation des émissions précédentes.
I love métro.
Et bientôt un hashtag métro Guillaume.
Voilà.
Ce qu'il faut, c'est garder l'esprit métro en toi.
Tout à fait. Voilà.
Donc on compte sur toi Guillaume, on te retrouve. Et là, c'est pas trop l'esprit métro, ça va être l'esprit soleil. On a un peu besoin de ça avec dans toute cette grisaille. California Dreaming, The Mamas and The Papas.
Ouais.
Attention, vous êtes sur écoute.
Avant d'écouter le second épisode de L'homme qui voulait courir plus vite que le métro, je vous propose de revenir sur le flash info de Noémie qui ne manque pas de fou rire.
Attention, vous êtes sur écoute.
Kiev dénonce une concentration de troupes russes dans l'Est séparatiste. Ces mouvements confirmés par l'OTAN font craindre une guerre ouverte après 2 mois de trêve. Durant le week-end, l'Organisation pour la sécurité et coopération en Europe a dit avoir localisé dans l'est de l'Ukraine un convoi de 43 véhicules, dont 19 camions, tractant chacun un obusier. Pour Kiev, aucun doute, il ne s'agit bien et bien des soldats russes. Tué par une attaque de frelons asiatiques, Roger Voyer, un agriculteur retraité de La Roche-sur-Yvon, a succombé.
Vas-y, continue. Non, c'est juste l'info. C'est
ils sont juste horribles. C'est juste ça. Bah, je c'est horrible.
J'ai trouvé que ça, les gars. Du coup, vous me déconcentrez. À plusieurs dizaines de piqûres, après avoir percuté un nid avec son
tracteur. Ouais, j'avoue que l'information.
Il va falloir remettre les frontières. Il ne faut pas les
laisser. Ah, vas-y, continue. Continue, je dois assurer le matin de l'émission. Continue. Alors, vous avez percuté un truc. Un nid. Allez, tu peux le faire.
Ok. Selon le ministère de la Santé, les piqûres de frelons, mais aussi d'abeilles, provoqueraient une quinzaine de morts par an.
Une quinzaine de morts par an, c'est ça ?
D'accord, non, c'est
horrible. Donc voilà, continue.
On se calme. Cependant, les...
1, 2, 3.
Tu peux le faire, vas-y.
On a perdu Noémie.
Vous êtes horrible. Vous l'avez,
franchement, c'était ma première, mon premier flash. Vous l'avez touillé mon truc. Alors...
Taisez-vous ou je vous fais évacuer le studio. Allez, vas-y, à toi, Noémie.
Cependant, l'espèce asiatique a changé au courant des dernières années ses habitudes, s'acclimatant au climat par instinct de survie. Un adolescent chinois de 12 ans.
C'est pas possible. Ah non.
A survécu 6 jours dans un Ikea en mangeant des en mangeant des échantillons de nourriture. La police l'a retrouvé dans un magasin.
Désolé. je fais la fin. Elle est où? Alors, un adolescent chinois de 12 ans a survécu 6 jours dans un Ikea en mangeant des échantillons de nourriture. La police l'a retrouvé. La police l'a retrouvé dans un magasin du district de Guiyui en fin de semaine dernière. Le jeune aurait survécu en se nourrissant d'échantillons gratuits offert dans les supermarchés voisins. Très affaibli, il est actuellement hospitalisé. Parti de son domicile avec seulement 10 yens en poche, un peu moins d'1,50€, le jeune homme s'était disputé avec sa mère après avoir été viré d'un cours de maths où il n'avait pas fait ses devoirs.
Mais je comprends pas, il a mangé les crayons à papier Ikea ou...
Non, des échantillons gratuits de bouffe. J'ai pas très bien compris. Mais en fait, je comprends pas qu'est-ce qu'il a foutu 6 jours dans un Ikea. En fait.
Mais bon, c'est ça.
Comment on l'a pas découvert avant, surtout quand même.
Attention, vous êtes sur écoute.
Alors, ce fou rire était un moment assez drôle à vivre sur écoute. Mais donc là, tout de suite, on continue cette fameuse histoire du métro, Nicolas.
Et oui, c'était le 12 novembre dernier. Et Guillaume, Julien et moi-même, on avait continué de suivre cet homme qui voulait courir plus vite que le métro rennais.
Attention, vous êtes sur écoute.
Oui, alors, je suis allé avec Nicolas.
Et oui.
Parce que donc le 11 novembre, donc, comme beaucoup de monde le savent, c'est la journée de commémoration de la fin de la guerre 14-18. On n'avait pas vraiment envie d'assister à ça. Alors, on s'est dit, il y a un monsieur qui a envie de
courir.
Il y a un monsieur qui a envie de courir après
le métro.
Plus vite que le métro.
Désolé, mais moi, je suis allé aux commémorations après, en fait. J'y tenais vraiment. Et donc, ça n'engage que toi.
Oui, mais en fait, comme c'est tous les ans, et voilà, on peut se permettre d'en rater une. Hein. Oui, mais quand il y a un monsieur qui court.
Là, c'était le centenaire, mais bon, on va pas polémiquer.
Et c'est surtout que, comme c'était l'anniversaire de Guillaume hier, bon anniversaire, on avait aussi envie de lui faire plaisir parce qu'il avait suivi le truc. Et alors, on retrouve Sébastien Philippe, donc il y a 36 ans, qui habite Gévesey et qui a voulu courir entre Charles de Gaulle, la station Charles de Gaulle et Jacques Cartier. Il a démarré à 11h Il a voulu donc courir plus vite que le métro pour l'association, je l'ai noté, je vais le retrouver.
Pour impressionner, pour impressionner sa femme, tu peux le dire.
Non, pas seulement.
C'était une association pour lutter contre
l'autisme et les troubles envahissants du développement. Son fils est autiste et c'est pour ça que c'était un projet qu'il tenait à cœur. Alors on est allé prendre ses réactions à chaud.
Ça va te faire mieux la prochaine fois. Le temps n'était pas forcément super. Ça a joué un peu sur mon moral ce matin quand je me suis levé. Hein, s'il pleut, bon, ça va être plus difficile. Mais après, bon, bah, le métro va quand même très vite. Et c'est ce pourquoi il est fait. Pour nous emmener le plus rapidement possible finalement d'une station à une autre. Donc c'est quand même le jeu et bah, j'ai quand même essayé de me tenter de me mesurer à lui. Je trouve que c'est déjà beaucoup d'avoir tenté et je vais m'entraîner pour le refaire également. Je trouve que l'important, c'est d'aller jusqu'au bout de sa démarche. Moi, je vais toujours au bout des choses, au bout de ce que j'ai envie de faire, au bout de mes rêves. Et c'était un rêve aussi d'organiser un événement sur Rennes. Et je trouve que ça, c'est un pari qui est gagné, quoi, quelque part.
Ouais, voilà, vous l'avez compris, je ne l'ai pas dit avant, mais bah, il a loupé son pari. Il est arrivé une minute après le métro. Mais donc, comme vous l'aurez également compris, il va réessayer. Il est encore très motivé. En 2015, donc, il prévoit ça. Et, ah oui, ouais, mais donc, ça représente, on ne dirait pas comme ça, mais pour quoi je ne sais plus, ça représentait 3 minutes de course, quelque chose comme ça, 4 minutes. Ça représente des heures et des heures d'entraînement. Et il va essayer de nous refaire ça, bah oui, je l'ai déjà dit, en 2015, donc en fait, non, j'ai rien d'autre à te dire.
Bah merci, Julien. Voilà. Mais non, c'est tu veux...
Non, mais j'aurais dû prendre plus de notes, en fait. Voilà, c'est tout.
Arthur, t'as l'air...
Non, mais c'est vrai que le métro à Rennes est plus rapide qu'à Paris et que dans plein d'autres villes où il y a le métro.
Mais d'ailleurs, alors c'est le premier à avoir fait ça. Donc à Rennes et en France, mais c'est quelque chose qui avait déjà été fait à Londres.
D'accord.
À Lyon aussi.
Même dans d'autres villes en France.
À Lyon, ouais.
Ça s'appelle Rise the Tube.
Ouais. Ah ouais. Alors, il le sait mieux que nous.
Si vous voulez, une petite information chiffrée, le métro de Rennes peut atteindre 84 km/h en vitesse maximale. Ouais.
Et je tiens à dire qu'il n'a pas de notes avec lui, hein, donc il le connaît vraiment par cœur.
Ah mais oui.
Bah, pour comparer, il faisait du 23 à l'heure.
Ouais, bah quand il avait son sprint, il devait faire un 900 mètres à cette distance-là, à cette vitesse-là, pardon. Et ouais, donc c'était assez conséquent.
Est-ce que s'il avait pris les chiffres dès le début, il n'aurait pas pu s'apercevoir que c'était pas faisable ?
Alors, il y a des facteurs qui ont joué à ça. Il y a eu un mauvais temps, en fait. Hein. Il y a eu la pluie. Et puis d'autres choses, des petits détails qui font que ça n'a pas pu se faire. Par exemple, alors, il y a un escalator à Charles de Gaulle. Il a pu s'aider de ça, mais alors à Jacques Cartier. Non, il n'y en a pas d'escalator.
Bah, heureusement qu'il n'est pas descendu à Anatole France. Quoi.
Ouais, ah bah ça, ça c'est clair. Ouais. Il aurait fallu qu'il prenne l'ascenseur.
J'ai découvert cette station ce week-end. C'est
horrible. Hein.
Ah, ouais.
Je ne sens plus. Voilà.
Mais bon, voilà, son entourage, tout ça, son fils surtout, était très fier de lui. Et donc c'était aussi pour une noble cause. Hein.
Pour éviter les problèmes d'escalier, il pourrait carrément courir devant le métro. Si le mec s'est bien préparé, à un moment où il faut prendre des risques, quoi.
Non, mais il avait même, envisagé de sauter les marches et tout. Il avait bien réfléchi à ça.
Ah bah, il était
faisable dans son défi, dans le sens où il avait décomposé chaque partie et il les avait faites séparément et il y arrivait en fait. Par exemple, le sprint qui était difficile de 400-500 mètres à 23,
dans la rue de l'Alma, c'est ça.
Ouais, voilà.
La rue
de l'Alma, il s'était entraîné, il y arrivait donc.
Ouais,
voilà.
Très longue et avec un profil, c'est on dirait
pas
comme ça.
C'est un faux plat.
passionné.
Je pense qu'on va entendre encore longtemps parler de ce métro.
Ce qui est très beau, les gars, c'est qu'on a fait un plus gros débat sur le mec qui court plus vite que le métro
que
sur la gêne, la révolte des jeunes.
Ça change un peu, et puis il faut dire qu'hier on était en petit comité, on est arrivé avec Nicolas, il y avait quoi, une petite dizaine de personnes.
Oui, mais c'était très agréable.
C'était très agréable. Ouais.
Attention, vous êtes sur écoute.
Et maintenant, Cyrielle, on va aborder un sujet assez complexe, assez difficile, c'est celui de la Syrie.
Tout à fait. On recevait Romain Huette, qui est professeur de sociologie à l'université Rennes 2. Il s'était rendu, lui, sur place et il nous faisait part de son expérience en exclusivité dans Surécoute.
Attention, vous êtes sur écoute.
Ensuite, Adrien, tu nous emmènes en Syrie.
Oh, je vais peut-être pas vous emmener en Syrie, mais en tout cas, j'ai été rencontrer Yann Chamali, qui est trésorier de l'association Tous pour la Syrie à Rennes. Et j'ai pu échanger avec lui un peu sur la situation là-bas. On écoute.
Pourquoi en Syrie les manifestations ont-elles débouché sur cette situation alors qu'il y a des pays comme l'Égypte ou la Tunisie qui ont géré ça différemment ?
Les manifestations en Syrie n'ont pas débordé tout de suite. Il faut se rappeler que les manifestations pacifiques ont commencé en mars 2011 et sont restées pacifiques pratiquement 5 à 6 mois. Et même le régime Assad l'a reconnu au début et il disait que les manifestations étaient pacifiques. Et à ce moment-là, on a vu la créativité de la révolution syrienne. On a vu les chansons de la révolution syrienne, les dessins. C'est un peuple que je le croyais mort. Moi, que j'ai abandonné la Syrie il y a très longtemps parce que je détestais ce régime, je détestais ce pays. Et je ne croyais pas qu'il y avait du peuple dedans, encore vivant. Et quand j'ai vu les débuts de manifestation, les slogans qu'ils portaient, comme quoi le peuple syrien, c'est un peuple uni, ils souhaitent avoir des réformes. Du coup, pour moi, la révolution n'a pas débordé. Actuellement, la révolution est morte, c'est sûr. Mais après 6 mois, ce qui s'est passé ? Donc, il y a des gens ou des pays puissants qui ont mis le feu sur la révolution. Des chefs d'État puissants, comme les États-Unis, y compris la France, la Turquie, qui ont donné des signaux très positifs comme quoi il faut continuer. On ne vous laissera pas tomber. Combien de fois on a entendu Hillary Clinton dire « Les jours d'Assad sont comptés ». Combien de fois on a entendu le chef turc dire « On ne laissera pas faire Assad un deuxième massacre de Hama comme c'était en 1982 ». Donc probablement, il y avait d'autres enjeux dans la région. On a voulu que la révolution syrienne dérape de son chemin pacifique. Le régime a joué le jeu des puissants. Il n'a pas conduit des vraies réformes qui puissent calmer la population, lui donner de l'espoir qu'il peut y avoir des réformes vraiment politiques et économiques. Mais il a mis le feu dans le pays, il a écrit noir sur blanc « Al-Assad ou Nakhob al-Balad ». Ça veut dire « C'est moi, Assad, ou c'est la destruction totale ».
Aujourd'hui, alors que le conflit a provoqué la mort de 200 000 personnes, il devient difficile un peu de se faire une idée précise de qui sont les acteurs principaux de ce conflit. Qui sont ces Syriens qui s'opposent au régime de Bachar al-Assad ?
Il faut savoir qu'actuellement, ce ne sont plus les Syriens. Les Syriens qui conduisent la révolution, ce sont des pays étrangers à la Syrie qui conduisent. Et ils ont des pions dans la Syrie. On va retrouver l'Iran en première position avec son allié, donc le régime syrien, et l'Iran. La Russie, il fournit la couverture diplomatique, l'Iran la couverture militaire aussi, et tous les armements et les hommes. Et elle exploite le sentiment de l'appartenance religieuse au chiisme pour envoyer des combattants irakiens et iraniens combattre en Syrie. L'Arabie Saoudite et les pays du Golfe aussi, ils ont d'autres calculs. Ils acheminent des armements à des groupes qu'ils soutiennent à droite, à gauche, pour soi-disant, peut-être, probablement, faire une sorte d'équilibre. Et cet équilibre conduit à la destruction longue de la Syrie et ainsi éviter que le feu soit propagé jusqu'à chez eux. Ça, c'est mon propre analyse. Mais eux, ils sont derrière la révolution. Ce qui est d'autre ici derrière, les Américains et les Européens aussi, ils sont derrière. Et les Syriens qui sont après, les jeunes qui ont manifesté, ils sont très peu présents maintenant dans la révolution. La révolution populaire est morte.
Donc en fait, la révolution syrienne, qui était une volonté d'avoir un élan de liberté, a complètement échappé aux Syriens et a été réappropriée par d'autres mouvements extrémistes ou géopolitiques.
Exactement, surtout des puissances étrangères, des puissances internationales.
Comment expliquez-vous que ni l'ONU ni la Ligue arabe n'aient réussi à apaiser le conflit ? La scène internationale est-elle vraiment impuissante face à la situation en Syrie ?
La Ligue arabe est vraiment impuissante parce que dans ses statuts, elle ne peut pas intervenir, ne peut rien faire en fait. Et la communauté internationale dans la composition du Conseil de sécurité est impuissante aussi à cause de la Russie. Et ceci dit, quand la Ligue arabe, à chaque fois qu'il y avait une intervention, une initiative, le peuple syrien avait de l'espoir. Il essayait de montrer à ses enquêteurs, que ce soit de la Ligue arabe ou que ce soit de l'ONU, comme quoi il y avait vraiment une population en souffrance, une population en enquête de liberté. Et il lui montrait comme quoi c'était les forces de sécurité qui tiraient sur la population, et ils essayent de témoigner. Connaissant le régime, comment il a réussi à dévier la révolution, lui, il essaye toujours de magouiller et de gagner du temps, avoir un sursis pour continuer le massacre. Ceci dit, dans mon propre analyse, les dirigeants des pays arabes, ils n'ont aucun intérêt à ce que la révolution syrienne réussisse. Ça, c'est tout un calcul complexe, que ce soit pour éviter que ce soit leur tour arrive et soit destitué de leur place de gouverneur, de dictateur. La communauté internationale, les Américains ont deux constantes dans la région, l'État israélien et le pétrole.
Quelles seraient selon vous les actions à mener pour venir à bout de cette crise ?
Il est très difficile à répondre à cette question. Pour moi, s'il va y avoir une solution, une vraie volonté, ce que je doute beaucoup qu'il y ait actuellement pour résoudre le drame syrien, c'est qu'il faudrait mettre un terme, des mots clairs et net, envoyer un signal clair et net à Assad qu'il faut qu'il ramasse ses affaires.
Quelle est l'importance d'une association comme la vôtre, Tous pour la Syrie, dans l'univers rennais ?
Notre association fait partie des associations de solidarité internationale qui est favorisée par la politique rennaise via la présence de l'AMIR, la Maison internationale de Rennes. Du coup, on peut mener des actions pour le public français à Rennes qui leur permettent de comprendre. Ceux qui ne veulent pas rester des simples spectateurs peuvent agir et contribuer à nos actions, ce qui est le cas actuellement. La majorité de nos membres sont des Français, sont pas des Syriens.
Quelles sont les actions que vous mettez en place via cette association ?
Faire connaître au peuple français et rennais principalement la révolution syrienne, expliquer comment ça s'est passé quand on a fait des conférences, la révolution, la crise, la complexité de la Syrie, comme on fait actuellement. Ça, c'est comme action médiatique. Deuxième action humanitaire, on n'a pas voulu rester des simples spectateurs, les bras croisés, écouter les informations, mais on a voulu mettre en place des actions humanitaires, comme la première action, acheminer une tonne de lait bébé infantile à l'intérieur de la Syrie, jusqu'à l'intérieur, donc on l'a acheminé en 2012. La deuxième action humanitaire, on essaie de coopérer avec les autres associations pour monter des projets de plus grande envergure, par exemple l'achat des ambulances. On sait actuellement que les blessés sont transportés sur des mobilettes souvent, du mobilette jusqu'à le point de secours le plus proche. Donc on a contribué avec d'autres associations à acheter des ambulances, à les acheminer jusqu'à la Syrie, collecter les vêtements. Les vêtements, les gens qui ont des pleins de vêtements, c'est très facile à donner. Ben, on a pris à un moment donné, il y a eu besoin de beaucoup de vêtements pour l'hiver. Le matériel médical, on travaille avec l'association médicale à Paris des Syriens, ça s'appelle UOSSM. Tout ce qu'on nous donne des matériels médicaux, médicaments, on essaie de leur donner ça pour qu'eux les acheminent dans leur centre de soins à l'intérieur de la Syrie. Parce qu'il y a un manque énorme. Troisième action qu'on essaie de mener actuellement, on va essayer de le mener, mais il faudrait beaucoup de volonté, d'énergie avec nous dans l'association parce qu'on n'est pas nombreux. C'est le projet de travailler avec les enfants, échange de dessins. Du coup, on va faire dessiner à des enfants, des écoliers français, des dessins d'enfants. Et on va faire dans une école, par exemple, en Turquie ou en Syrie, à des enfants syriens, dessiner des schémas et échanger les dessins. Et en même temps, on va essayer de recompenser ces enfants en syrien. On leur achemine aussi, si on arrive à faire un conteneur de matériel scolaire, des crayons, des sacs à dos et tout le matériel scolaire qui peut leur servir.
Quel est l'impact d'une association comme la vôtre sur la situation ?
Pour la population locale aussi, il y a le fait que quand on apporte quelque chose, ils voient qu'ils ne sont pas seuls. Et ça leur apporte beaucoup d'espoir. Même au début de la révolution, quand on est allé pour travailler avec les enfants, et là on voyait vraiment les visages, ils se disent on n'est pas seuls, il y a des gens qui transmettent notre calvaire, ils transmettent nos aspirations de liberté.
Si vous voulez plus d'informations sur l'association, vous pouvez vous rendre sur le site internet touspourlasyrie.fr et on continue avec le dossier syrien juste après une petite pause musicale avec Romain Huette qui est professeur à l'université Rennes 2. Et tout de suite, on écoute la chanson Follow the Sun de Xavier Rudd.
Follow which way the wind blows. When this day is done, breathe, breathe in the air. Set your intentions, dream with care. Tomorrow's a new day for everyone. A brand new moon, a brand new sun.
C'était Follow the Sun de Xavier Rudd et tout de suite l'interview de Romain Huet, professeur, je dis bien, c'est Romain Huet ?
Oui, c'est ça.
C'est ça, professeur à l'université Rennes 2 qui va être mené d'une main de maître par Adrien.
Ou d'une main de maître, ça met la pression. Donc Romain Huet, vous êtes docteur en sociologie, si je ne me trompe pas. Vous avez étudié le RSE, ce qui était la responsabilité sociale des entreprises pendant un temps. Et aujourd'hui, vous vous concentrez sur d'autres projets. Donc quelle est exactement la teneur de votre travail aujourd'hui? Sur quoi vous vous concentrez? Et du coup, pourquoi vous avez développé de l'intérêt pour le conflit syrien?
Alors effectivement, ça n'a plus grand-chose à voir avec la responsabilité sociale des entreprises, comme vous pouvez l'imaginer. L'idée, c'est de faire une étude sur les mouvements sociaux, particulièrement sur les révolutions qui ont secoué le monde arabe, avec une idée, enfin une hypothèse un peu centrale, c'est de se dire qu'est-ce qui produit en fait chez les individus le sentiment, enfin la nécessité de se soulever, qu'est-ce qui conduit un individu en fait à se réapproprier le politique et tout simplement à un moment donné à être dans une logique de contestation, de soulèvement politique. Et l'hypothèse, c'est de dire que la souffrance, en fait, est un ressort subjectif assez important, c'est-à-dire une impulsion assez importante dans le soulèvement d'un individu. C'est-à-dire que quand vous considérez que votre vie est injuste, qu'elle est injustifiée, que vous vivez dans un état d'oppression, etc., que vos horizons sont verrouillés, eh bien, on pourrait supposer que cela peut légitimer, en tout cas, le fait qu'à un moment donné, bah, tout simplement, vous trouvez que la situation est intolérable et que vous vous soulevez pour des raisons politiques. Évidemment, dans le monde arabe, on a pu voir des mouvements de masse extrêmement importants. Et donc, à la base, l'idée, c'était de travailler sur les réfugiés syriens pour essayer d'avoir leur discours justement sur leur représentation de la guerre et sur ce qu'ils ont pu vivre à ce moment-là. Et puis finalement, bon, avec plein d'aléas, on s'est retrouvé à l'intérieur du pays. Et donc depuis, j'ai réalisé 4 voyages sur place, dont un dernier là, en septembre dernier, où l'idée est de faire une ethnographie de ces combattants qui sont engagés donc en Syrie et d'essayer de comprendre en fait quel est leur monde. Quel est leur monde social, comment c'est configuré, comment ils vont tisser des relations les uns et les autres, et évidemment comment ils vont se soutenir dans un engagement qui est globalement assez désespéré pour, en l'état actuel des choses. Donc voilà, l'idée c'est vraiment de comprendre ce qui anime ces combattants. Donc au total, il y a une 60aine de jours qui ont été passés sur place à l'intérieur même de ces cellules de combattants.
Justement, vous en parliez, qui sont ces combattants ? Qu'est-ce qui justifie leur engagement aujourd'hui ? Qu'est-ce qu'ils font qui restent dans le combat ?
Alors, la première chose qui est importante et qui fait le lien avec ce que vous avez passé tout à l'heure, c'est que ce sont des individus ordinaires qui n'étaient absolument pas préparés à la guerre au départ, quoi. C'est-à-dire que ce sont des gens qui sont devenus progressivement acculturés, enfin habitués à la violence à des fins politiques, qui se sont habitués à la guerre, qui se sont transformés finalement en guerriers maintenant. Mais au départ, il est clair que on avait des révolutionnaires et que dans les derniers voyages que j'ai pu faire en 2014, effectivement, j'ai plus vu des guerriers, quoi. Donc, des gens jeunes. De 18 à 20, 25 ans, parfois on en voit aussi quelques-uns plus jeunes, des gens qui font des professions, un peu tout type de professions, des professions plutôt modestes, on a également des étudiants dans tous les domaines, et des individus qui globalement se regroupent ensemble, enfin, qui sont des gens du voisinage, hein, des amis, enfin, il y a toujours des connaissances un petit peu intimes entre les uns et les autres, et qui vont se former dans des brigades. Alors effectivement, il existe plein de brigades qui ont des tendances idéologiques, on va dire, très très variées. Donc là, on ne peut pas avoir un discours très homogène en ayant étudié. Moi, j'ai étudié que 2 brigades, donc bon, forcément, je connais le quotidien de ces 2 brigades à elles, quoi.
D'accord. Justement, on parlait de ces jeunes de 18 ans ou qui viennent de professions différentes. Et ça me fait penser, le quotidien sur place, il doit vraiment être différent d'une autre, on peut facilement imaginer. Quelles sont les activités de la vie de tous les jours ? Est-ce qu'il y a des moments de fête ? Est-ce que les jeunes, ils ont la place d'être créatifs, d'apprendre, de grandir à une vitesse cohérente ? Comment s'organise la vie quotidienne ?
Très franchement, des moments de fête, j'en ai pas vu un seul en autant de temps. Ça veut pas dire qu'il y a des moments en fait de joie et de moments sympathiques, de convivialité, bien sûr. En revanche, la joie, elle est vite tuée par le nombre de morts qui est absolument impressionnant, quoi. Je veux dire, enfin, tous les jours, vous êtes au contact avec la mort systématiquement. J'ai assisté à je ne sais combien d'enterrements de personnes qui tombaient juste autour de nous. Donc ça, c'est un quotidien de désolation. C'est un contexte très clairement mortifère. Dans l'endroit où j'étais, il y avait une quinzaine, une trentaine de bombardements par jour. Ça veut dire que chaque bombardement, c'est 2 à 3 barils qui tombent. Donc ça veut dire que, en fait, vous passez votre existence quasiment dans l'attente du prochain avion. Après, quand vous êtes combattant, vous avez des temps de repos, et puis généralement, c'est des switches, des changements, des turnovers de 24 heures. C'est-à-dire que vous allez sur une ligne de front pendant 24 heures, donc vous allez vous reposer de temps en temps, et puis ensuite, vous avez 2-3 jours, ça dépend de l'évolution des lignes de front. Mais en gros, votre quotidien, si vous voulez, il est complètement réorganisé. Vous n'avez plus de rapport à un quotidien qui est un rapport qui est normal, quoi. C'est-à-dire que c'est soit du repos, soit dans le temps annulé, le temps de repos. Vous occupez en regardant des vidéos, en jouant à des jeux vidéo, etc. Alors sur le coup, ce qui était assez intriguant, c'est que par exemple, moi j'étais avec des gens qui jouaient des jeux de vidéo de guerre, ça c'est sûr, c'était très très fréquent, dans lesquels cette fois-ci ils pilotaient des avions et des hélicoptères, parce qu'évidemment ils n'en pilotent pas, mais qui jouaient aussi à Candy Crush par exemple, notamment chez une brigade qui voulait absolument dépasser le level 58, je ne sais pas ce que ça veut, mais vraiment il nous a même demandé des conseils, on n'a pas pu lui en donner, et puis on a même joué aussi avec un football manager, enfin pas un jeu de football genre FIFA ou un truc comme ça, dans lequel on prenait des équipes européennes et on essayait de gagner, quoi. Ils étaient plus forts que nous, quoi, à chaque fois.
Donc ils jouent plus que vous à FIFA, quoi.
Non, mais bon, disons que j'essaie de dire simplement qu'effectivement, en fait, face à un contexte de désolation qui est vraiment général, un paysage qui est même assez apocalyptique, enfin, je veux dire, avec des rues dévastées, des villes entièrement détruites, ça c'est absolument incroyable. Des villes où vous voyez que quelques maisons qui restent encore debout. Donc à un moment donné ou un autre, effectivement, vous avez des soupapes d'échappement, mais qui sont très brèves, parce qu'elles sont toujours interrompues, en fait, par l'expérience de la guerre. Donc l'idée, nous, c'était de comprendre cette expérience sociale de la guerre et d'essayer de restituer, en fait, dans le quotidien, comment ça se traduit, quand bien même, hein, il y a des moments de sociabilité qui sont très forts, parce que ça renforce la cohésion, hein, ça renforce la solidarité entre les uns et les autres. Évidemment, vous avez une vie en commun dans des espaces très réduits. On est à 30 dans une petite maison, on dort à 15 dans 15 mètres carrés, quoi. Enfin, j'exagère probablement, j'ai pas de représentation de l'espace, mais si vous voulez, voilà, c'est une vie qui est complètement organisée, pas d'études, pas d'école, par exemple.
Et justement, comment ces combattants tiennent le coup malgré la souffrance, malgré la guerre, malgré tout ce qui se passe autour d'eux ?
C'est une question qui est vraiment difficile, que j'aimerais comprendre. Véritablement, disons que y a un processus irréversible, c'est-à-dire quand vous êtes engagé depuis 3 ans dans une lutte armée, au bout d'un certain temps, en fait, il est juste trop tard. Qu'est-ce que vous voulez faire maintenant quand vous êtes engagé, vous avez exposé votre corps à la blessure, à la douleur et possiblement à la mort, quand vous avez perdu vos amis, etc. Au bout d'un certain temps, en fait, se retirer, il y en a quelques-uns, bien sûr, il y en a beaucoup même qui se sont retirés, mais c'est extrêmement difficile. Évidemment, en fait, c'est une lutte désespérée et en même temps, on voit qu'il y a des choses qui les font tenir. Effectivement, bon, on parle beaucoup d'aspects religieux. C'est difficile de le traiter en si peu de temps, mais effectivement, ça contribue en fait tout simplement à refaire ordre là où il y a un profond désordre, là où il y a une profonde réorganisation de sa propre existence. Mais finalement, effectivement, ça permet de construire aussi un discours un peu fataliste dans lequel, en fait, ma destinée précisément, elle est de combattre jusqu'au bout, quoi. Elle est de combattre véritablement jusqu'au bout. Donc il y a vraiment ce sentiment un peu désespéré qui est extrêmement fort, en tout cas que j'ai noté dans les derniers voyages. Par exemple, les premiers voyages, on était sûr que la révolution allait se terminer, quoi. C'est-à-dire qu'on imaginait qu'en fait Bachar al-Assad allait partir dès la fin du Ramadan en 2012, quoi. Voilà, 3 ans en 2014, évidemment, le discours n'est plus du tout le même. Et donc c'est ce qui autorise aussi, ce qui autorise un relâchement aussi sur le plan moral et sur le plan des justifications qui nous conduit à faire une lutte, quoi.
D'accord. Sans faire de comparaison, on revient un peu en France. Bien sûr, la situation est vraiment différente. Mais quand on parle de cette jeunesse-là qui se soulève dans la rue, comme ça a été le cas par exemple en Tunisie, en Égypte et puis aussi en Syrie, à l'origine du mouvement, même si on en est loin aujourd'hui, qu'est-ce qui, selon vous, explique le mutisme en France? Parce qu'il y a une étude qui est parue l'année dernière qui montrait qu'il y avait plus de la moitié des jeunes en France qui étaient prêts à faire un mai 68, à protester, à aller dans la rue protester. Et qu'est-ce qui fait que ce soit soulevé dans ces pays-là, même si encore une fois, la situation est différente, hein, c'est pas le même régime, c'est pas les mêmes revendications. Mais qu'est-ce qui fait qu'en France, il y a un mutisme de la jeunesse quand dans certains pays dans le monde, on voit les jeunes descendre dans la rue? Est-ce que vous avez un peu une idée de ça, ou c'est juste notre confort qui nous conforte dans l'inaction, ou c'est complètement différent, on peut pas du tout comparer?
Je crois qu'effectivement, c'est très difficile de comparer. On est dans des contextes qui sont vraiment radicalement différents. Par contre, ce sur quoi il est possible de réfléchir, c'est vraiment ce qui pousse une société, en fait, à se soulever, à être dans une logique politique de réappropriation des choses, réappropriation de sa propre existence et de son existence collective. Donc là, je veux surtout pas comparer les deux. En revanche, en France, effectivement, cette passivité est peut-être tout à fait provisoire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, effectivement, on voit que la situation, l'intolérable, en fait, est extrêmement fréquent, qu'il y a une banalisation de l'injustice qui est évidente, que le déshonneur est régulier, etc., que les situations d'indignité sont extrêmement fréquentes. En même temps, aujourd'hui, ce que ça a tendance à faire, cette souffrance-là, c'est à replier les individus dans leur propre espace privé, dans leur propre intériorité, et qu'a priori, précisément, je décroche par rapport aux affaires communes, parce que aussi, j'ai du mal à le comprendre. Et surtout, je ne crois pas que ma propre action, en fait, elle est susceptible de transformer quelque chose. C'est-à-dire que je ne crois pas, en fait, autant je vois l'injustice, mais je n'arrive pas à imaginer une solution collective et politique, quoi. Du moment qu'en fait, on n'a plus cette croyance à l'égard du monde. C'est-à-dire cette croyance à la possibilité, effectivement, qu'il est tout à fait possible de transformer les choses, de lutter contre des formes d'injustice. Évidemment, quand cela arrivera, eh bien, ça rendra possible un quelconque mouvement. Mais je pense que, vous savez, la révolution arabe, il y a très peu de personnes qui avaient anticipé quoi que ce soit, quoi. C'est tombé comme ça d'un jour au lendemain. C'est-à-dire que le basculement, en fait, il ne se laisse pas toujours prévoir, il ne se laisse pas toujours anticiper. Par contre, ce qui est certain, c'est qu'on voit un niveau d'insatisfaction, des horizons globalement verrouillés pour quand même un nombre très important de personnes, et qu'il est à supposer qu'à un moment donné ou un autre, cela peut transformer en fait l'état de résignation, précisément un état de contestation qui est quand même une volonté de reprendre possession en fait de notre existence et de notre existence commune, c'est-à-dire notre existence reliée, parce qu'aujourd'hui malheureusement en fait on vit un peu isolément les uns les autres, alors que nos problèmes, les mots que l'on peut rencontrer sont parfois extrêmement similaires, extrêmement semblables, quoi. Donc à un moment donné ou à un autre, on peut supposer qu'il y aura un lien qui sera fait entre ces différentes situations.
Merci beaucoup.
Et tout de suite on écoute Black Atlas, Paris.
For the time we say, Attention, vous êtes sur écoute.
Et je vous laisse avec le son des Drifters dans les oreilles, White Christmas sur Radio Campus Rennes.
I'm dreaming of a white Christmas, just like the ones I used to know. Those treetops listen, and children listen to hear sleigh bells in the snow, the snow. But then I am dreaming of a white Christmas, with every Christmas card I write. May your days be merry and bright. And may all your Christmases be white.
I'm dreaming of a white Christmas, just like the ones I used to know, where the treetops of a white Christmas, with every Christmas card I write.
May those days, may your days be merry and bright. Ooh. And may all your Christmas be white.
Jingle bells, jingle all the way.
Bien voilà, c'était déjà tout pour aujourd'hui, Nicolas. Donc mardi 23 décembre, on se retrouve demain pour le réveillon de Noël.
Ah, c'est bientôt, c'est bientôt. Préparez-vous, faites vos cadeaux, allez voir votre famille, des gros bisous, on vous aime, que de l'amour, c'est Noël. On se donne rendez-vous donc demain.
Et on vous embrasse.
Au revoir.
Au revoir.
I know a bloke
Who knows a bloke? Who knows a bloke? Now you know this bloke. This is a bloke you know.